Répliquez-vous l'émission des ressources humaines sur Liberté FM et je suis avec Christophe Rouge, consultant. Bonjour Christophe.
Bonjour Christian, bonjour tout le monde.
Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche de plus en plus d'entreprises, mais dont on parle finalement assez peu, l'épuisement des managers. Christophe, est-ce réellement un phénomène en augmentation ?
Ben très clairement, Christian, oui, c'est un phénomène qui augmente de plus en plus. Et ce qui est frappant, c'est que lorsque l'on parle de souffrance au travail, on va penser spontanément aux collaborateurs, aux salariés, parfois aux dirigeants, même si c'est rare. Et entre les deux, ben, y a une population qui est souvent oubliée, ce sont les managers. Pourtant, ils sont vraiment au cœur de toutes les tensions. Mmh. C'est des personnes qui doivent faire appliquer les décisions, qui doivent accompagner les équipes, gérer les difficultés individuelles, collectives, répondre aux attentes de leur hiérarchie, atteindre les objectifs, gérer les imprévus, etc. etc. Et ils sont souvent coincés entre plusieurs niveaux de pression. Et on analyse au sein de notre équipe qu'on voit de plus en plus de managers qui arrivent complètement épuisés, pas parce qu'ils n'aiment plus leur métier, mais parce qu'ils ont fini par porter beaucoup trop de choses seuls.
Mais pourquoi ces managers sont-ils particulièrement exposés aujourd'hui ?
Je pense que le rôle du manager, il a profondément changé ces dernières années. Il y a encore 15 ou 20 ans, un manager, en tout cas, devait simplement organiser le travail et contrôler l'activité. Oui. Aujourd'hui, on lui demande d'être à la fois gestionnaire, d'être à la fois coach, d'être à la fois médiateur, d'être un bon communicant, de pouvoir accompagner le changement, des fois même de devenir psychologue de premier niveau. Les attentes, elles sont vraiment multipliées par la pression qui est donnée par l'entreprise. Et or, il y a beaucoup de managers qui n'ont jamais été réellement formés à toutes ces dimensions. Ils apprennent sur le tas avec beaucoup de bonne volonté, mais aussi beaucoup de pression qu'ils n'arrivent pas à gérer.
Et comment commence généralement cet épuisement ? Quels sont les signes ?
C'est rarement brutal, ça se fait petit à petit. Ça va commencer souvent par quelque chose de très positif, qui est l'engagement du manager, parce qu'il a envie de bien faire à la base. Et il est impliqué, il va vouloir aider son équipe, il veut vraiment être à la hauteur. Donc il va accepter un dossier supplémentaire par-ci, puis un autre par-là, et puis une mission en plus. Et puis il va remplacer petit à petit un collaborateur absent, et puis il va gérer des urgences. Et progressivement, il va entrer dans une spirale et un mode de fonctionnement qui va le rendre toujours disponible, toujours sollicité, toujours en train de répondre à quelqu'un, jusqu'au jour où il ne sait plus vraiment quand il s'est arrêté pour réfléchir à lui-même.
Est-ce que tu as un exemple concret issu de tes accompagnements ?
Oui, je pense à un responsable de service que nous avons accompagné dans une PME industrielle. Tout le monde l'appréciait, son équipe, sa direction, les collègues, parce qu'il était toujours disponible. Et quand il y avait un problème, il trouvait une solution. Quand quelqu'un était absent, il compensait. Quand un client était mécontent, il intervenait. Et pendant des années, tout le monde l'a considéré comme un manager exemplaire. Et puis un jour, il nous a dit « Je me lève fatigué, je vais me coucher fatigué, je n'ai plus envie de rien ». Ce qui est frappant, c'est que personne n'avait vu venir cette situation, parce qu'il continuait à tenir. Il se montrait sur un bon jour, alors qu'en fait, c'était très compliqué pour lui.
Mais pourquoi est-ce que ces signaux passent souvent inaperçus ?
Parce que les managers sont souvent très bons pour masquer leur fatigue. Ils vont considérer que montrer leur faiblesse, c'est un signe de désarroi. Et ils ont le sentiment qu'ils doivent être solides pour assurer les équipes. Les problèmes, c'est qu'en cachant leurs difficultés, ils privent également leur entourage de la possibilité de les aider.
Quels sont les premiers signaux d'alerte alors ?
Il y en a beaucoup. Moi, je pense à l'irritabilité, par exemple. C'est souvent un des premiers signes. Un manager qui est habituellement calme, qui devient impatient, qui supporte de moins en moins les erreurs, il va se mettre à répondre plus sèchement. Il y a aussi les troubles du sommeil, le sentiment de ne jamais vraiment décrocher, la difficulté à se concentrer, la sensation permanente d'être en retard, et puis de ramener du travail éventuellement à la maison. Il y a certains managers aussi qui commencent à perdre du plaisir dans leur travail. Ce qui les motivait auparavant devient plutôt une contrainte.
Et est-ce que le perfectionnisme joue un rôle ?
Énormément, parce que souvent, les personnes sont très investies, elles ont envie de bien faire. Les managers les plus exposés sont souvent ceux qui ont les meilleures intentions. Ils veulent être irréprochables, ils veulent que tout fonctionne parfaitement. Mais cette recherche permanente de perfection, ça devient épuisant, parce qu'il n'y a aucune organisation au final qui est parfaite. Il n'y a aucune équipe qui peut se prétendre de tout faire bien, correctement. Et il n'y a aucun manager parfait.
Mais est-ce qu'on peut être un bon manager sans vouloir tout contrôler ?
Alors non seulement on le peut, mais c'est indispensable. On l'a vu dans différentes émissions, il faut que le manager soit en capacité de sortir du bac à sable pour prendre du recul, organiser, planifier, structurer, etc. Il y a beaucoup de managers qui confondent responsabilité et contrôle. Ils pensent que puisqu'ils sont responsables, ils doivent tout vérifier, tout savoir, tout maîtriser. En réalité, ça crée de la dépendance au niveau des équipes. Alors qu'une équipe performante, c'est une équipe qui va pouvoir justement travailler seule, qui va être capable de fonctionner même lorsque son manager n'est pas là.
Pourquoi est-ce si difficile de déléguer ?
Bah, ça implique la délégation de renoncer à une partie du contrôle. Mmh. Ça va générer souvent de l'inconfort. Beaucoup de managers me disent « je vais plus vite en le faisant moi-même ». Et c'est vrai, hein, à court terme, sauf que sur long terme, bah, ça devient épuisant. Et c'est un piège. Il faut savoir investir du temps pour permettre aux personnes qui nous entourent de devenir autonomes sur les missions et de les accompagner pour qu'elles puissent avoir la compétence, ce qui te permet ensuite de déléguer et de pouvoir se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Et le problème, c'est que les managers deviennent le point de passage obligatoire de toutes les décisions, et là, c'est pas bon.
Et chez Réplique, vous rencontrez souvent ce syndrome du sauveur?
Ouais, très 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 souvent. Ouais. C'est même l'un des mécanismes les plus fréquents dans les équipes. Certains managers ont construit leur identité professionnelle autour de leur capacité à résoudre les problèmes. Mmh. Ils aiment être utiles, ils aiment être ceux vers qui l'on se tourne. Puis c'est valorisant en soi, hein. Il y a une certaine forme de recherche de reconnaissance aussi à travers ça. Et le problème, c'est que progressivement, ils deviennent clairement indispensables. Et lorsqu'on devient indispensable, on devient également prisonnier de son schéma de fonctionnement.
Mmh. Alors avant de voir les impacts sur la vie personnelle, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter aujourd'hui L'amour fou d'Indochine. Vous êtes bien sur Liberté FM, vous écoutez l'émission Répliquez-vous, l'émission des ressources humaines. Aujourd'hui, nous parlons de l'épuisement des managers. Dans la première partie, nous avons vu les symptômes qui révèlent cet épuisement des managers. Et nous voyons maintenant tout de suite l'impact que cela a sur la vie personnelle. Christophe, dis-nous.
ils sont considérables les impacts. Il y a beaucoup de managers qui nous disent qu'ils pensent au travail le soir, le week-end, pendant les vacances, puis avec les outils connectés, ils ramènent tout ça à la maison. Il y en a certains qui vont consulter leur mail dès le réveil, d'autres qui vont répondre à leurs équipes à 22h, 23h, 1h du matin. Et petit à petit, la frontière entre vie pro et vie perso disparaît complètement.
Eh oui, j'imagine que les proches le ressentent.
Bah, carrément, souvent avant même que le manager ne s'en rende compte lui-même, les conjoints, les enfants, les amis voient une personne qui est de plus en plus tendue, qui est de moins en moins disponible et beaucoup plus préoccupée.
Peut-on parler d'une forme de solitude managériale ?
J'ai envie de te dire oui, il y a beaucoup de managers qui nous disent qu'ils ont le sentiment de ne pouvoir parler à personne parce qu'ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Ils ont peur d'avouer leur faiblesse auprès de leur direction par peur de représailles. Et puis ils ne veulent pas montrer non plus qu'ils sont en difficulté auprès de leurs équipes par peur de perdre leur légitimité. Donc ils ne veulent inquiéter personne, ils ne veulent pas paraître faibles devant tout le monde et ils vont garder leurs difficultés pour eux.
Oui, et cette solitude aggrave certainement l'épuisement.
Bah énormément, parce que quand on porte seul ce qui pourrait être partagé, bah c'est plus compliqué, mais c'est valable avec n'importe quelle problématique.
Mais quelles sont les conséquences alors sur les équipes ?
Bah on va dire que le manager épuisé, il finit toujours par impacter ses collaborateurs, parce qu'il devient moins disponible, moins patient, parfois plus autoritaire, il prend moins de recul sur les choses, les décisions deviennent de plus en plus réactives et le climat de travail se dégrade au fur et à mesure.
Les collaborateurs le perçoivent.
Bah oui, parce que on est tous humains, on a tous une sensibilité et même lorsque le manager pense le cacher, les équipes elles perçoivent ce changement d'attitude.
Alors j'imagine qu'un manager peut aller jusqu'au burn-out dans ces conditions.
Oui, et malheureusement ça arrive, plus qu'on croit même. Le burn-out, c'est pas juste un manque de résistance, hein, c'est le résultat d'une exposition prolongée à une surcharge sans récupération suffisante et oui, ça fait des dégâts.
Et il est bon de rappeler quels sont les signes avant-coureurs d'un burn-out.
Alors, ça va souvent commencer par une fatigue persistante, avec une perte de motivation, un cynisme qui devient grandissant, un sentiment d'inefficacité, parfois même des manifestations physiques comme des douleurs, des migraines, des troubles du sommeil. Il faut savoir que plus on va mal, plus on se surinvestit au travail. Et ça fait un effet, un cercle vicieux.
Mais comment prévenir pour ne pas guérir ?
Je pense qu'il faut accepter qu'on a des limites et qu'on ne peut pas tout gérer et que ça devient compliqué. Faut arriver à en parler à sa direction. Cela, ça paraît évident, mais beaucoup de managers ont du mal à l'accepter. Puis ensuite, en apprenant à prioriser. Tout n'est pas urgent, il y a des choses qui peuvent être mises de côté. Il faut se concentrer sur les 20% d'actions qui vont générer 80% du résultat pour faire en sorte que ces 20%, ça devienne 21, 22, 23 et arrêter de se laisser happer par les grains de sable qui au fil de la journée, viennent bouffer toute votre énergie.
Mais alors finalement, dire non, est-ce une compétence managériale ?
Oui, c'est une compétence managériale et même une compétence qui est essentielle. Dire oui à tout, c'est souvent dire non à sa propre santé. Et puis ça n'aide personne, ne serait-ce qu'accepter un objectif s'il n'est pas smart, et qu'on n'a pas cherché à le négocier, on se met une pression directement qu'on va retranscrire auprès de ses collaborateurs. Et c'est le début de la fin.
Mais pourquoi est-ce si difficile ?
Parce qu'il y a beaucoup de managers qui associent le refus à un manque d'engagement et qui ont peur de s'affirmer et d'être assertif. Alors qu'en réalité, savoir dire non, ça permet souvent de mieux tenir ses engagements. On peut très bien dire à un dirigeant qui vous met une pression avec un objectif que l'objectif, pour X ou Y raison, factuellement, n'est pas atteignable à l'instant T. Donc soit il faut diminuer la qualité, soit il faut diminuer la quantité, soit il faut négocier un délai plus conséquent, soit il faut aller chercher des ressources complémentaires. Et c'est là qu'on devient efficace.
Et alors, quel est le rôle de l'entreprise dans tout ça ?
C'est souvent celle qui va avoir un rôle majeur. L'épuisement, c'est pas uniquement la responsabilité individuelle, hein, c'est aussi les dirigeants, les organisations qui doivent s'interroger sur la charge de travail, les moyens qui sont donnés aux managers et la clarté des priorités.
Et alors, est-ce qu'il y a des entreprises qui gèrent mieux ce sujet ?
Il y en a effectivement et on va dire que c'est celles qui vont valoriser la durabilité plutôt que l'héroïsme, celles qui vont récompenser l'anticipation plutôt que la gestion permanente des urgences. On le dit souvent, il y a les sprinters et puis il y a les coureurs de fond et il vaut mieux être un coureur de fond que faire le truc à la va-vite et se rêcher après.
Quelle est l'erreur commise la plus fréquente des dirigeants ?
Penser qu'un manager qui tient est un manager qui va bien, c'est pas parce qu'une personne continue à avancer qu'elle n'est pas en souffrance, donc il faut savoir... prendre le temps de rencontrer le middle management et d'échanger avec et d'écouter ce qu'ils ont à dire.
Et quel conseil donnerais-tu alors aux managers qui nous écoutent ?
De prendre le temps de se poser une question simple. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie aujourd'hui et qu'est-ce qui m'en prend ? Et si la deuxième liste devient plus longue que la première, il est temps d'agir.
Un deuxième conseil ?
Apprendre à demander de l'aide peut-être avant d'être à bout. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, hein, c'est au contraire une preuve de maturité. Et bien sûr, il faut que la direction soit à l'écoute, mais c'est un vrai point.
Et je suis sûr que tu as une troisième recommandation.
Arrêter de chercher à être indispensable, chercher plutôt à rendre l'équipe autonome pour pouvoir prendre du recul, justement sortir du bac à sable et organiser, planifier, structurer, comme on l'a déjà répété à plusieurs reprises.
Alors finalement, quel est le message principal de cette émission d'aujourd'hui ?
Ben, je pense que charité bien ordonnée commence par soi-même, et donc il faut que le manager soit en capacité de se préserver. Mmh. Un manager qui est épuisé peut pas durablement prendre soin des autres, donc pour accompagner une équipe, il faut aussi savoir prendre soin de soi.
Et une dernière phrase pour conclure.
Je pourrais dire que beaucoup de managers passent leur temps à remplir les batteries des autres, mais aucune équipe ne peut avancer longtemps derrière un manager qui roule constamment sur la réserve. Donc, à bon entendeur.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Christophe, pour cette émission qui parlera certainement à beaucoup de nos auditeurs. Et si vous voulez approfondir le sujet, n'hésitez pas à contacter Christophe et son équipe. On va rappeler les coordonnées.
Oui, on peut nous joindre par téléphone au 05 64 13 98 00, également via notre site internet, également via le mail contact@replik.com et les réseaux sociaux.
Parfait, merci beaucoup Christophe.
Merci Christian, prenez soin de vous.
À très bientôt.
Au revoir.